Et salut à tous la communauté de Jeep, c'est les retours du podcast, on ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours avec mon partenaire de toujours, c'est Den. Bonjour Den.
Bonjour, je suis un partenaire.
C'est le partenaire. Et on vous fait un petit podcast comme toutes les 2 semaines maintenant, parce qu'en ce moment on est très très occupé. Donc voilà, le rythme s'est un petit peu réduit, mais ne vous inquiétez pas, ça continue, on ne vous oublie pas. Donc on en avait fait un très très gros maintenant il y a 10 jours. Il faisait 2 heures.
Celui avec Liège?
Bah oui, il était de
Oui, c'est vrai.
qualité.
C'est
Bon,
extrêmement énorme.
aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Alors comme d'habitude, on va faire un petit récap de l'actualité e-sport sur Hearthstone qui vient de se passer. Et il y avait notamment un très très gros event ce week-end qu'on a regardé avec beaucoup d'intérêt avec Dan. C'était la DreamHack Austin à Major qui était en KOTH. C'était peut-être le premier très très gros tournoi dans le nouveau Meta Ungoro. On va donc en parler un petit peu. Et ensuite, on va faire un petit check-up de qu'est-ce qui s'est passé dans le méta, parce que du coup, on a plein de choses à voir. Le méta continue de tourner, c'est très intéressant. On va notamment parler de la nouvelle annonce du fait que Hearthstone a dépassé un gros nombre de joueurs. On en parlera tout à l'heure. Et je vais poser une petite question à Den à la fin, et ce sera notre débat, et ce sera un micro-débat. Voilà, on le fera en plus gros. Mais j'avais envie de lui poser là maintenant, et lui-même ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut être d'accord, tu ne sais pas ce que c'est?
La question?
Oui.
Non, j'ai absolument aucune idée de quoi on parle.
Voilà, du coup, ce sera le magnifique surprise. Du coup, première partie, la DreamHack Austin. Une DreamHack qui s'est passée sur 3 jours. Format très très complexe. Les formats des DreamHack, c'est vraiment dur. C'est 9 rondes suisses. 9 rondes suisses qui donnent un top 16. Où il faut faire 7-2 pour passer au deuxième jour de compétition.
7-2 et des bons tiebreakers. Il y a dans certaines configurations, tous les 7-2 ne passent pas.
Voilà. On n'a pas eu de français cette fois-ci. Pas
On
de
y a cru.
France. Oui.
On a eu des très très bons départs. On a eu des très très belles remontées. Mais au final, aucun français dans les 16.
Le dernier à avoir perdu sa chance, je pense que c'était Odemian, qui était notre dernier représentant en lice à la 9e ronde.
Il me semble qu'il y avait Odemian et Vince à 6-2. Pour faire simple, il y a Windelo qui était le plus gros espoir français à 5-0, qui a malheureusement craqué sur les dernières rondes. Ensuite, il y a Odemian qui a fait une énorme remontée, qui avait sa chance au dernier tour et qui a perdu. Et il me semble avoir vu que Vince était à 6-2 et qu'il a aussi perdu sa dernière ronde, ou alors que le tiebreaker pour lui n'était pas assez bon pour espérer se qualifier. Mais voilà, tout le long des rondes, on avait une chance d'avoir un Français dans les 16. Et c'est que à la dernière ronde que bah, c'est un peu effondré.
Voilà, un top 16 qui a vu la victoire, on peut le dire, l'hégémonie de la team Tempo Storm. Parce que Tempo Storm a réussi à mettre 4 joueurs en top 16. C'est quand même
C'était
assez
jamais vu.
incroyable.
Ça a été jamais vu. Autant de présence sur un tournoi par la même équipe, c'est un record. Aucune équipe n'avait jamais réussi à mettre autant de joueurs aussi loin dans un tournoi, tout simplement.
Voilà, en top 16, il y avait à la fois Trump, nouvel arrivé, Just Saiyan, Reynad, qui est le créateur, hein, l'instigateur, le patron de Tempo Storm, et Héloïse.
Oui.
Et on peut le dire, nos amis, les Tempo Storm se sont fait assassiner par quasiment un seul joueur. Hein, 3 sur 4 ont été
Y en
éliminés
a
par un seul joueur.
trois qui se font sortir par le même joueur. Et Trump, bah du coup, il y a Mister Lego qui bat Héloïse en huitième, qui bat Jess Saiyan en quart et qui bat Reynad en demi. Et Trump qui se fait sortir en demi-finale bah, par l'éventuel vainqueur du tournoi. Chou.
Non, il se fait sortir par Terence. Ah non, il bat
Il bat
Terence,
Terence en huitième.
il se fait sortir par
Il
Choupe.
se fait sortir par Choupe.
Et donc maintenant, vous le savez, Choupe qui a gagné ce tournoi et qui donc part avec 7 500 dollars et un
7 000 euros.
nombre voilà et un nombre pas négligeable du tout de points. Il a donc des chances de très très grandes chances de se qualifier pour les Springs. C'était le dernier major avant les Springs.
Oui,
Plein de
c'était
joueurs.
le dernier qui comptait pour les Springs. Bah, il suffit qu'il ait fait, je crois que c'est 15 points, un vainqueur de tournoi, quelque chose comme
C'est
ça.
15 points premier, oui.
Voilà, donc il suffit qu'il ait fait, comme il est américain, le cut était à 18 ou quelque chose comme ça. Honnêtement, s'il a fait trois fois légende, il y a des chances qu'il soit qualifié de base avec 18 points. Et sinon, s'il a fait un top ou une Open Cup, normalement, il devrait avoir absolument aucun souci à passer.
Voilà, donc Shoup qui était un joueur un peu méconnu de la scène internationale, mais qui apparemment sur la scène américaine est assez reconnu pour ses qualités de deck building et ses qualités de joueur, malgré le fait qu'il fasse très peu de tournois parce que bah apparemment il bosse chez Google ou quelque chose comme ça. Hein?
Il bosse chez Google, c'est un monsieur de chez Google, en effet.
Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette DreamHack, Den? On peut dire que. On a rarement vu dans un tournoi majeur une telle diversité au niveau des decks.
On a rarement vu autant de diversité au niveau des decks, jusqu'à la fin d'ailleurs. Jusqu'au top 16. Dans le top 16, il y avait très très peu de line-up qui étaient les mêmes. Il n'y avait pas les 9 classes. Il y en avait, on va dire, il y en avait 5 qui étaient très présentes, 2 qui étaient un peu, et une qui n'était pas du tout, du tout là, du tournoi. Et jusqu'au bout, il y a vraiment eu énormément de diversité. Et autre chose qui a surpris beaucoup, beaucoup de monde, c'est la qualité des decks contrôle amenés à cet événement. Les decks.
Effectivement, les decks contrôle ont vraiment, vraiment fait le job. On a notamment vu bah, Warrior Taunt, qui est un peu la star de l'event, on peut le dire. Il y a eu. Bah...
Paladin et Guerrier ont été les deux énormes stars du tournoi.
Après, est-ce
Guerrier.
que c'est pas quelque chose qui est justement un principe de KOTH où tu peux te permettre de faire des decks qui sont beaucoup trop et qui du coup vont gagner seuls contre des line-up.
Oui, c'est très possible que ce soit quelque chose qui est faisable dans cet environnement. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce tournoi, en fait, c'est que. Bon, déjà, Guerrier Taunt, dès le début, on a vu que Guerrier, ce serait l'archétype Taunt qui serait favorable. Dans le top 16, il me semble qu'il n'y avait que Terence qui avait un guerrier pirate. Mais surtout, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'est Paladin. Paladin qui, au début du tournoi et quasiment tout le long du tournoi, tout le monde a dit bah, Midrange Paladin est un deck totalement exceptionnel. Et ça a été un deck totalement exceptionnel d'ailleurs tout au long du tournoi. Hein. Et au final, c'est Paladin Enzot que personne n'avait vu venir qui a gagné le tournoi.
Oui, enfin, il a gagné le tournoi, il l'a pas joué en finale son Paladin Enzoth parce que l'adversaire a vu le Paladin Enzoth et a fait
Non,
bah, je vais te
non
le
monsieur.
bannir en fait.
Voilà. Par contre, il a mis un 3-0 avec. Alors je ne sais plus si c'était en quart ou en demi. Je sais que dans le top 16, à un moment, il y a eu un 3-0 en Paladin Enzot. Et il s'est fait ban en finale. Mais justement, c'est une énorme marque de respect.
C'est ça, c'est l'adversaire a respecté le deck. Donc voilà un méta très très éclectique. Et on peut le voir, petite stat sympathique qu'on va vous donner, c'est les cartes les plus jouées dans les decks du top 16. Dans les decks du top 8 même. Donc chaque joueur avait 4 decks, donc en tout ça fait 32 decks. La légendaire la plus jouée, c'est le Curator. Qui était seulement dans 10 decks.
Bah, sur les 10 decks, enfin il y a 8 joueurs déjà sur les 8, il y avoir 7 de Guerrier Taunt, j'imagine, quelque chose comme ça.
Voilà.
Et les 3 autres, c'était Paladin?
C'est ça. Donc, on est sur. On est sur moins d'un tiers. Et après, on descend. On a Patches à 7. Tyrion et la quête guerrier à 6. Tarim. Forcément, il va avec Tyrion qui est à 5 parce qu'une liste le jouait pas. Aya à 5, Ragnaros à 4 et Thalnos à 4. C'est par rapport au tournoi qu'on avait vu juste avant où vraiment il y avait des légendaires qui étaient très 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 trop présentes. C'est assez sympathique. Pareil, la carte la plus jouée dans tout le tournoi et qui était dans la moitié des decks, c'était le Drake Primordial.
Pas dans la
Le...
moitié, 14 sur 32.
Ah, moi j'ai 15 sur 32, mais effectivement,
Moi j'ai 14.
c'est quasiment la moitié. Voilà,
Voilà,
on est
ben
à
en fait, la...
45.
pourquoi la raison est simple, c'est parce que ben Drake il est dans Guerrier Taunt et dans Paladin, et les deux decks étaient les decks les plus représentés, et il a été surjoué aussi parce que ben, du coup le vainqueur Choupe le jouait aussi dans son mage.
Voilà, et en plus, bah, il y a une certaine logique au fait que ce Drake, qui est un des seuls Drakes défensifs bien qui reste dans le méta, soit là alors que le Curator est la légendaire qui a été le plus joué.
Oui,
Voilà. Il y a une espèce
ben oui,
de...
il y a un dragon, oui, le Curator est un lien direct au Drake primordial.
Voilà. Et en rare, alors on a vu quand même une époque... où on avait presque 80, je crois que le pire, je crois que c'était 80% des decks qui jouaient Drake Azur. Dans les rares, c'est beaucoup moins parce que ici on a la rare neutre la plus jouée qui est le Stone Hill Defender. En français, je ne me rappelle plus du nom. C'est la 1/4 taunt qui découvre un taunt.
Défenseur de brute pierre.
Voilà, défenseur de brute pierre. Qui est vraiment une très très bonne carte. Qui était dans quasiment tous les
Dans.
paladins et dans quasiment tous les guerriers, d'où le fait qu'il soit
Ben
dans
en
beaucoup
fait,
de
toutes les
decks.
cartes représentées, vous pouvez vous dire que c'est dans tous les paladins et tous les guerriers. Mais la raison est simple, en fait, c'est parce que. Ben déjà, avec le guerrier, c'est une des meilleures cartes de guerrier taunt, parce que c'est un taunt qui découvre un taunt. Donc c'est en une carte, ben 2/7 de la quête. C'est beaucoup. 2/7 d'une des cartes les plus fortes du jeu actuellement, c'est beaucoup. Voilà, je sais pas trop comment vous le dire autrement.
Non, mais c'est ça.
Et parce que en paladin, eh ben ça découvre Tyrion de 1 et ça découvre aussi Tharim, qui sont actuellement les deux cartes qui portent paladin, on peut dire un
Oui,
peu.
tout à fait. On peut
C'est
le
ces
dire.
deux cartes sur lesquelles Paladin gagne des matchs, gagne peut-être même trop de matchs. C'est une question qu'il faudra poser à Blizzard un jour ou l'autre. Mais voilà, du coup, eh ben, quand ça rentre dans les deux decks les plus forts du méta et que ça permet d'être un lien direct avec la condition de victoire de ces decks, c'est pas du tout étonnant de retrouver cette carte comme la rare la plus jouée.
Et après, on a les classiques. Comme vous voyez, on a eu 6 fois la quête guerrier. Bah, dans les épiques les plus jouées, il y avait 6 fois d'or avec les poissons et 6 fois baston. Et dans les rares, il y a 6 fois le petit Navrecorne, la 3-6 taunt. Et 6 fois l'armurière 2-7 taunt. Donc voilà, les cartes du guerrier taunt. Les guerriers taunt étaient très proches les uns des autres. En tout cas, ils avaient tout le temps la même ossature sur lequel se sont basés les decks, donc voilà, c'est assez étonnant, c'est pas étonnant, pardon, d'avoir toujours ces mêmes cartes qui reviennent. Donc bravo, bravo pour la diversité, Blibli. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu une diversité comme ça dans le jeu.
Bah alors, par contre, attends, on va expliquer diversité parce que ça fait quand même 10 minutes qu'on parle que de paladin et de guerrier.
Oui.
Alors, pourquoi diversité? Oui, paladin et guerrier étaient très très représentés, mais si on regarde tous les decks, déjà les deux classes les plus représentées avaient chacun au moins deux archétypes, donc guerrier, et ben, le taunt qui est arrivé et le guerrier pirate. Le paladin, on a vu du midrange murloc, on a vu du murloc aggro. On a vu du contrôle, purement contrôle, et on a vu du Enzot contrôle. C'est quatre archétypes pour une classe. Je ne sais pas depuis quand c'était pas arrivé, quatre archétypes pour une classe. Ensuite, on a Mage qui a été énormément représenté. Pareil, on a vu bon, le Mage découverte, Freeze Burn, qui fait un peu de tout dominer, mais on a vu un Freeze Mage. On a vu un mage secret, donc pareil, on a trois archétypes sur la même classe, c'était assez rare. Au final, sur toutes les classes qui ont été jouées, il n'y a que prêtre qui avait un seul archétype avec dragon, druide où il n'y a que druide jade qui s'est hissé dans le top 16, très rare d'ailleurs, parce qu'avec la puissance de druide aggro en ladder, on s'attendait à en voir beaucoup plus.
Oui, il y avait énormément. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu énormément de druides aggro qui se sont fait éliminer. Moi, j'en ai vu beaucoup sur le week-end. Mais effectivement, les joueurs qui ont choisi druides aggro, vont pas aller plus loin, tout simplement parce que la puissance de la Jade dans un format KOTH permet de taper des line-up qui sont pas très très bien préparés. Donc
Oui, ou qui sont préparés que à de l'aggro.
oui, qui sont préparés que à de l'aggro. Voilà, c'est assez intéressant, Druid Jade dans le format KOTH. Je pense qu'on conquête le conquête. Ce sera pas la même chose. Mais oui, effectivement, il y a eu deux rocs différents. On a eu Miracle.
On a un miracle. Dans le top 16, on a un miracle et quatre quêtes.
Dans le top 8, tu veux dire.
Oui, dans le top 8, pardon. Oui, bon, le voleur quête, évidemment, qui a été très très populaire. D'ailleurs, le voleur quête qui a été le deck le plus banni des rondes suisses. Et plus on a avancé dans le tournoi, et moins le deck a été banni, et plus le paladin a pris les bans, qui était un phénomène assez rigolo à observer. Voir au fur et à mesure les gens qui se sont habitués au méta, ou peut-être des line-up mieux préparés, qui savaient qu'il allait avoir du Rocket, qui étaient prêts à l'affronter, qui avaient un deck dans la line-up qui était fait pour battre Rocket, et qui se sont rendus compte au fur et à mesure que Paladin, quand il fait sortie parfaite, il mange du monde.
Et voilà,
Beaucoup de monde.
pour vous dire, il y a eu 14 archétypes différents dans le top 8. 14 archétypes de deck différents dans un top 8, c'est énorme.
Voilà, 14 sur 32 decks. Ce qui
Voilà,
veut dire
c'est.
que, ben au final, il y avait presque la moitié des decks qui étaient différents.
Voilà,
C'est-à-dire qu'il y a quasiment. Est-ce qu'il y a eu, sur tout le top 8, est-ce qu'il y a eu un seul miroir identique?
il y a dû y avoir un. Je me rappelle d'avoir vu un miroir. Je crois que Reyna joue un
Voilà.
miroir.
Mais c'est très très rare dans ce
Oui, ça a
tournoi,
été.
les miroirs identiques.
Ça a été très très rare. Donc. Très très intéressant. Et puis en plus, les line-up étaient différentes. Les joueurs ont pris ont pris vraiment des choix différents. Il n'y avait pas une line-up qui se ressemblait vraiment. Il y avait vraiment des combats de style. Donc. Voilà. Un tournoi qui était très intéressant. On espère qu'on va revoir Choup parce qu'effectivement les decklists qu'il a sortis sont très intéressantes. Terence a validé le fait que bah il est vraiment solide. Trump a un niveau incroyable, Reynad a un niveau incroyable et des gens qu'on connaît quoi.
Chucky aussi a montré que sa victoire de l'année dernière, il l'a volée à personne.
Voilà, il est arrivé en top 16 encore une fois. Il a perdu contre
Voilà.
Terence qu'il avait battu l'année dernière
Oui,
en.
c'était la petite revanche.
Voilà, donc des noms connus. Il y a très peu, je pense que le seul joueur qui était vraiment pas connu du top 8, ça devait être Cat Destroyer.
Mr. Lego aussi.
Non, Mister Lego est assez connu.
Ah bon?
Je sais que c'est notamment en Australie.
Ben, je l'ai jamais vu dans les qualifications à Pâques, pourtant.
Moi, je l'avais vu déjà dans un Spring, je crois, ou quelque chose, ou un truc comme ça l'année dernière. Et
D'accord, autant pour moi.
apparemment, c'est un très 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 bon joueur australien. Mais oui, un peu moins connu, on est d'accord. Mais sinon, et 4 Destroyers, mais sinon, Just Saying, Reynad, Trump,
Bah, tous les
Terence,
Tempostors, voilà,
Choup, Dog.
Et puis Dog, oui, il a fait top 8. Mais voilà, même si on remonte un peu encore, il y a eu une quantité de joueurs.
Oui, c'est ça. Derrière, t'as Amnesiac, t'as Shaki, t'as Astrogation, t'as Héloïse, enfin voilà quoi, et même derrière, en tout cas, le niveau de jeu a l'air d'être beaucoup plus important dans cette métagame que les métagames qui nous ont précédés.
De toute façon, dans un metagame qui ralentit et qui joue sur le contrôle, plus on allonge les parties, plus on rajoute des possibilités de choix dans un match. Et normalement, plus on doit choisir des choses et plus on est susceptible de se tromper. Donc, plus le niveau d'un joueur est visible.
Voilà, c'est exactement ça. Et puis, je sais pas, le Hearthstone de Un'Goro a quelque chose du Hearthstone du début. C'est très bizarre parce qu'il y a beaucoup plus de choses, mais dans le feeling que j'ai, je retrouve un Hearthstone un peu un Hearthstone bêta, tu vois, un Hearthstone début du jeu. Et j'ai l'impression que les joueurs qui étaient bons à l'époque redeviennent bons sur cette nouvelle méta.
Après, il faut voir justement, est-ce que c'est juste parce que c'est une nouvelle méta et du coup les joueurs qui étaient historiquement bons sont meilleurs parce que justement on est sur des decks qui sont assez peu, enfin on va dire pas, sont pas des decklists définitives si on peut dire. Et du coup comme on n'est pas sur une decklist définitive, eh ben c'est très très dur de surprendre en ayant un deck qui est ultra puissant et qu'en fait il faut juste apprendre à jouer. Et du coup on est sur des joueurs qui maîtrisent pas forcément les decks. Ou est-ce que au contraire c'est juste que le méta est fait pour, voilà, c'est pour les joueurs qui font aucune erreur. Parce que c'est vrai que sur le top 8 ou le top 16, en termes de qualité de jeu, ça a été un des top 16 les plus beaux que j'ai vus depuis très longtemps.
Ah,
Il
c'était très très cool à suivre. On va pas se le cacher. Du coup, voilà, une très très belle DreamHack. Prochain rendez-vous et on fera, pour le coup, on va peut-être enchaîner un petit peu. Parce que celui-ci, on va peut-être l'enregistrer direct live from DreamHack. Ce sera la DreamHack Tour, la DreamHack française qui se passe. Mais là, maintenant, au moment où on enregistre, elle se passe en 3 jours, 4 jours.
4, elle commence le sab... on est on... au moment où on parle, on est mardi 2 et elle commence samedi 6. Pour Hearthstone en tout cas, il y a quelques events qui commencent le vendredi 5, mais sinon pour nous, c'est samedi 6.
Qui elle sera aussi en ronde suisse mais en conquête donc
Et cette ronde au lieu de 9.
et cette ronde au lieu de 9 donc autant le dire hein, si tu fais deux défaites tu rentres chez toi
Oui, il faudra voir. Hein.
tu aurais
Deux
joué
défa
pour
deux défaites, tu rentres chez toi, et une défaite en première ronde, t'as intérêt à ce que la personne contre qui tu perds aille loin aussi.
Non, normalement, j'avais calculé, si on est 256 comme prévu, en fait, tous les 6 1 passent. Mais il n'y a pas un seul 5-2 qui passe. Le cut est à 16, en fait.
D'accord. Bon, et eh ben alors dans ce cas-là.
Donc, assez sympatoche. On espère que vous allez nous suivre, etc. Tiens, en voyant comment s'appelle, l'état de forme. Quel est le joueur qui pour toi est le plus à même de remporter cette DreamHack?
Alors, je vais pas te mentir, je ne sais même pas qui participe. Parce que je sais qui ne participe pas, mais je ne sais pas qui participe. J'ai très très peu d'infos, donc je ne sais pas qui est à même de remporter cette DreamHack. J'imagine que... Je sais que l'Arma Team ne participe pas, j'imagine que Gamers Origin participe. Donc je pense que c'est peut-être parmi leurs rangs qu'il y a les joueurs les plus solides du tournoi. Mais là, comme ça, j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question.
Eh bien moi, messieurs, dames, aujourd'hui je me mouille et je vous l'annonce car nous serons un jour d'élection, ce sera un jour solennel pour la France et je gagnerai cette DreamHack. Oui, messieurs, dames, voilà, on n'a pas peur. Eh oui, on se fait pousser des boules avant d'y aller. Et voilà, bon. Comme ça,
Très
tout le
bien.
monde pourra se moquer de moi dans le podcast de la semaine prochaine. Allez! Pour l'e-sport, c'est fini pour aujourd'hui. On passe au jeu, on passe au gameplay. Et du coup, on va discuter un petit peu vite fait de ce qui se passe sur le ladder. Ce qui tourne, etc. Très très vite. Den, comment est le méta en ce moment? Comment était le méta
Alors,
surtout de cette fin de saison où tu as fait le
ouais,
top 100, c'est ça?
j'ai fait 64.
Pas mal.
Alors, la question c'est, on est d'accord, c'est fin de saison, on parle pas du début de saison,
Oui, non,
parce
pas le
que
début de saison avec les cancers là.
le début de saison c'est War Pirate et Druide Aggro, et du Paladin. Fin de saison, qu'est-ce qu'on a eu en fin de saison? Alors, la fin de saison, le ladder a été extrêmement dominé. Il y a eu deux decks qui ont vraiment dominé le méta, qui est Paladin Murloc et Druide Aggro avec des crabes. Druide qui profite énormément du fait que les crabes soient des bêtes. Et donc qui agissait un petit peu comme le contre du druide, le contre du paladin. Qu'est-ce qu'on a vu du coup? On a vu du Warthaunt, parce que Warthaunt est un très bon deck contre, bah, contre druide aggro, justement. Qu'est-ce qu'on a vu dans les decks notables qui ont fait en cette fin de saison? Quelques voleurs quêtes, mais voleurs quêtes est assez catastrophique contre druide aggro, donc il n'y en a pas des masses qui sont passées. Et le mage aussi, le mage découverte. Burn, freeze, je sais pas trop comment on peut appeler ce truc en fait. qui a aussi trouvé sa place dans le méta parce que bah, il est capable de tout faire en fait. Donc, bah, quand ton but c'est de gagner tous tes matchs, quand ça tombe dans le bon ordre, que tu as les bonnes découvertes, et ben tu peux tout battre.
Oui.
Voilà, c'est un peu les quatre decks.
Effectivement, ce match qui est apparu un petit peu en toute fin de saison d'un coup, genre coucou, je
Out
suis
of
un
the
match Discover.
blue.
C'est ça, le gars est arrivé, genre bonjour, je suis un match quoi. Donc effectivement, mais pareil, hein, comme les cartes, comme les decks de la DreamHack Austin, beaucoup de variété sur le ladder.
Ouais.
Alors moi, vous savez à quoi je vois qu'il y a de la variété sur le ladder? C'est parce que je suis sur un groupe Facebook et sur le groupe Facebook, les gens se plaignent tous d'un truc différent. Il y a les gens qui font mais attendez, maintenant Hearthstone c'est devenu Rock Quest Simulator ou quoi? Ou alors il y a les gens qui font les gens Blizzard ils sont nuls, War Pirate c'est toujours le meilleur deck, vraiment jeu de merde. Ou alors il y a les gens qui sont là genre il y a les gens ils jouent Mage Quête là, c'est abusé.
Apparemment, ils sont bourrés sur le forum Evolvie, hein.
Oui, alors je vous explique, les commentaires sur certains groupes Facebook sont tellement invraisemblables que pour moi, dans ma tête, c'est toujours des gens bourrés qui le disent. Parce que sinon, c'est pas possible. Des gens pas bourrés, ils peuvent pas arriver à ces réflexions-là. Donc voilà, les gens se plaignent de plein de choses. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses et du coup, ça veut dire que le jeu est assez équilibré.
Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai fait mon top en druide Jade. J'étais très content parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour une fois, pour une fin de saison, c'est agréable de ne pas avoir le choix entre que deux decks en fait. Parce qu'en général, en fin de saison, c'était soit tu jouais le meilleur deck aggro, soit tu jouais son counter et t'espérais juste avoir les bons match-up. Là, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Il y avait vraiment un méta à lire. C'était très très dur à contrer. C'est très 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 dur de jouer uniquement un deck pur aggro et espérer que tu allais farmer un certain type de deck. Donc, non, c'était vraiment agréable les 3-4 derniers jours de ladder. En tout cas, dans les hauts rangs du légende. Et toi, Volvi, c'était comment en rang 14?
Eh ben alors attends, excuse-moi, hein, mais les derniers jours, hein, j'étais au-dessus du rang
T'étais rang
5,
3. T'étais rang
hein.
3. T'étais rang 3.
Je vais faire légende ce mois-ci. Et voilà, enfin j'espère, parce que je ne vais pas raconter ma vie, mais Dan le sait, en ce moment ma vie est une espèce de catastrophe ambulante. C'est un
Voilà,
petit peu.
Il est prêt pour, en tout cas, comme il a dit à la DreamHack, il est prêt pour être président avec toutes les promesses qu'il ne tient pas.
Non mais bien entendu, écoutez, voter Volvi, c'est la France du top deck. Attends, il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, celle-là si peut-être.
Il me
Bon.
semble qu'il y a un début de plagiat dans ta phrase.
Ouais, il y a peut-être un début de plagiat. C'est pas grave, on va mettre une faute de français au milieu. Alors, méta, c'est fait, maintenant parlons du deuxième sujet. Aujourd'hui, alors moi j'étais en train de m'entraîner pour la DreamHack. J'étais en train de jouer avec notre ami Asmodai. D'ailleurs, je me rappelle que sur cette partie, j'avais mis une branlée. Et là, je sors de ma partie et qu'est-ce qui arrive? Genre, tenez! Prenez trois paquets d'Angoro. J'ai pas compris.
Des petits paquets de cartes.
J'ai pas compris. J'ai fait ok, trois paquets d'Angoro, mais on a fait une quête, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti, je suis allé manger, et là, bien entendu, j'ai ouvert quoi? J'ai ouvert l'application Judge Jeep. Et qu'est-ce que j'ai vu? Hearthstone a dépassé les 70 millions de joueurs.
C'est beaucoup.
Il faut savoir que Blizzard avait déjà dit que les joueurs comme ça, c'est les joueurs qui ont été actifs pendant un mois. Hein? C'est pas genre juste les comptes qui ont été créés. Hein? C'est pas le nombre de comptes créés, c'est le nombre de gens qui ont joué en avril. Normalement, j'imagine. Donc,
Ceci est nombreux.
c'est invraisemblable. Je sais pas si tu te rends compte que ça fait 70 millions de joueurs.
Bah, j'imagine que je les mets pas dans ma chambre.
Non. Je veux dire, World of Warcraft, ça a dépassé les 10 millions très difficilement. C'est monté à, je crois, 11, 12, 13. Et c'est retombé, alors qu'à une époque, World of Warcraft, c'était...
Ouais, mais c'est pas la même époque. World of Warcraft, il a grandi dans une époque où les jeux vidéo, c'était très mal vu. Maintenant, Hearthstone, c'est démocratique. Hearthstone, c'est tellement beaucoup plus abordable que World of Warcraft. Il est jouable sur trois plateformes différentes. Le jeu est vu comme un jeu casu, etc. Enfin, je pense pas que tu puisses comparer les deux. Et Hearthstone, voilà, Hearthstone, c'est le jeu qui a absolument tout pour que tout le monde y joue, en fait.
C'est assez fou. Alors, je pense, je dis bien, je pense que du coup, il doit être quelque chose comme deuxième jeu le plus joué.
Le premier étant.
Bah, le premier étant League of Legends avec plus de 100 millions de joueurs.
Ouais,
Ça
je
aussi,
sais pas, j'ai.
c'est... C'est invraisemblable que quand tu parles du chiffre. Voilà, j'avais vu, je crois que c'est Dota 2.
Je
Dota
vais
2,
lire
il y
là.
a.
Je vais lire l'article. Tiens, vas-y, continue, moi je vais lire
Dota 2, il y a
l'article.
quelque chose comme 10 millions de joueurs. Il y a quelque chose comme 10 millions de joueurs. Donc voilà, 70 millions de joueurs. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui joue à Hearthstone que de français. Voilà. Je vous laisse ça. Non, mais voilà, je...
La question, c'est est-ce qu'il y a 70 millions de gens qui jouent avec les Français? Chacun ses questions. Chacun ses questions.
Mais ça ne fait absolument rien dire ce que tu dis. Non mais
Ouais.
voilà, donc très impressionnant le petit jeu de cartes. Le petit jeu de cartes qui a commencé doucement par 3-4 mecs le midi parce que ils avaient envie de se faire un jeu de cartes à la cantine. C'est assez incroyable. Et maintenant j'espère qu'on va avoir du contenu de qualité. Après voilà, on est content d'Un'Goro, hein, on va pas se le cacher.
Ah oui, Un'Goro, on n'avait jamais été aussi hype par une extension et on n'a jamais été aussi hype aussi longtemps par une extension. Et
Voilà
j'ai jamais
donc.
été aussi content de jouer à Hearthstone depuis au tout début quand j'ai commencé. Si je jouais énormément, mais c'est vrai que là, pendant les 2-3 dernières extensions, c'est vrai que surtout avec mes élèves, quand j'enchaînais des énormes journées de 10-12 heures de coaching. J'en avais marre, quoi. J'en avais physiquement marre au bout d'un moment. Et ben, le mois dernier, j'ai fait plus de coaching que j'en ai jamais fait dans ma vie. Et honnêtement, et ben, même des journées de 15 ou 16 heures, il y a très très peu de moments où j'en avais marre du PC en général, quoi. Mais j'en avais pas marre de Hearthstone. Alors que j'ai vraiment eu des périodes où Hearthstone, j'en avais marre, quoi. Je ne voulais pas jouer.
Ah non mais moi je suis totalement d'accord avec toi parce que tu vois là j'ai toujours pas pu jouer. Là en fait il s'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que j'ai pas pu jouer autant que j'aurais voulu.
Ouais, et
C'est-à-dire...
pourtant, Volvi, d'habitude, il finit la saison rang 15 et il a joué plus que ce qu'il aurait voulu.
Oui, c'est ça,
C'est-à-dire que
c'est...
je jouais lui, Volvi jusqu'à N'Goro, je devais lui dire, Volvi, tu es dans une équipe, tu as quand même des trucs à faire, joue à Hearthstone, s'il te plaît. Ouais, je jouerai ce week-end. Et le week-end, il jouait genre 45 minutes et encore, c'est parce que je lui hurlais dessus sur Skype et qu'on était en partage d'écran, et il jouait. Là, j'avais rien à lui dire, il est presque monté légende tout seul, il a aidé des gens, enfin voilà, c'est.
Ouais, j'ai passé des gens légendes. Mais le truc, c'est que, voilà, et comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, j'ai pas pu jouer. Vous voyez, là, avant de faire ce podcast, on s'est dit, il faut faire le podcast. Et j'ai joué à 20h, à 19h avec Asmo pendant plusieurs heures. Là, j'ai joué plusieurs heures après minuit avec Den. Et je joue depuis des heures. Et je m'ennuie pas. Ça fait tellement longtemps que Hearthstone, je le lançais, ça me cassait les couilles et je partais jouer à Overwatch. Est-ce que c'est pas pour ça que le jeu marche?
Bah, est-ce que c'est pas pour ça que le jeu marche? Évidemment que le jeu marche parce que le jeu est bien.
Bah oui, mais on avait un doute quand même, parce que... Est-ce que tu penses qu'ils ont balancé ce chiffre parce qu'il y a eu une grosse augmentation?
J'en ai absolument aucune idée pour te dire. C'est quelque chose que je suis très très peu, le nombre de joueurs sur les jeux, etc. C'est quelque chose auquel je suis assez peu sensible. Mais je pense que oui, c'est pas un hasard si Hearthstone bat des records, alors que le monde pro, en tout cas, enfin le monde, on va, je vais pas dire pro parce que on n'est pas forcément pro, mais on va dire le monde des gens qui jouent à, le monde des gens qui jouent à Hearthstone, pas casu, genre pas du tout casu, on va dire.
Oui, compétitif, hein.
Oui, enfin moi quand je dis casu, c'est des gens qui jouent voilà une à deux heures par jour. Voilà, moi ça fait maintenant 2 ans que je suis très très loin de faire partie de ce monde.
Oui, déjà 1 ou 2 heures par jour, en vrai, c'est même pas casu, hein. C'est oui, déjà limite c'est... hardcore. Hein.
Voilà, mais du coup, on va parler. C'est très rare que dans un jeu, les gens qui jouent énormément, et quand je dis énormément, c'est énormément, ne s'en plaignent pas. D'habitude, quand tu joues beaucoup à un jeu, il arrive toujours un moment, soit parce que tu perds, soit parce que tu es frustré pour autre chose dans ta vie ou quoi, ou tu vois les défauts du jeu. Voilà, tu es frustré. Ça fait 15 fois que tu perds, tu as eu une mauvaise RNG toute la journée. Voilà, tu le sens, enfin, je veux dire, c'est visible, c'est palpable, le jeu t'énerve. Et ben depuis Un'Goro, j'ai vu quasiment aucun joueur qui joue beaucoup à Hearthstone, sur Twitter ou autre, faire une gueulante.
Ah oui, c'est... Ah non, mais c'est vrai. Mais
C'est un truc, moi, qui m'a choqué. Ça fait un mois qu'Un'Goro est sorti. J'ai pas vu une seule gueulante d'un mec comme Xigzo, par exemple, d'un mec comme... Bon, Amnesia, qui faisait pas des gueulantes sur le jeu. Il faisait des gueulantes sur la qualité des joueurs. Mais voilà, on avait des mecs comme Xigzo, on avait des mecs comme Reynad, on avait même des mecs comme Kriparian, même Colento à une époque, Life Coach a failli revenir dans le jeu. Voilà, on avait beaucoup de joueurs qui n'avaient absolument aucun problème à mettre 2 fois par semaine un message sur Twitter de 10-15 lignes qu'ils hébergeaient par un autre site en disant Hearthstone c'est nul, arrêtez, moi je me suis mis à tel jeu, je me suis mis à truc, je me suis mis à machin et c'est mieux. Et ben depuis Un'Goro, j'ai pas vu ça.
Non mais c'est vrai, mais de toute façon, moi je l'ai jamais caché et on en parlait. J'ai eu un gros moment de vide où j'ai hésité à vraiment arrêter le jeu. Parce que Gadgetzan, déjà j'ai trouvé ça pas bien. C'est-à-dire que j'avais été hypé un peu par All God. Mais c'est pas Gadgetzan, Karazhan. Karazhan déjà j'ai trouvé, mais qu'est-ce qu'ils font au jeu, qu'est-ce qui se passe? Le chaman était trop fort. Il nous buff le chaman, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle des reviews où avec Dan, on en parlait après les cuts où j'étais là, genre, mais il tue le jeu! Et ça me faisait chier! Oh, j'étais pas bien, ça me faisait pas plaisir du tout. Derrière Gadgetzan, où je me dis, ah, ça va être cool, mais en fait, non. En fait, ils ont fait boucanier et ça a cassé le jeu. Et le jeu était quasi totalement inintéressant. C'était vraiment terrible. J'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que j'arrête Hearthstone? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que Ou j'ai essayé d'autres jeux de cartes? Hein?
Il a voulu faire des gaufres pendant longtemps.
Ouais, je me suis essayé aux gaufres, puis après je me suis rendu compte qu'en fait, les gaufres au saucisson, ça marchait pas génial. Oh putain, ça doit être trop bon en vrai. Pardon, donc voilà. Là, c'est vraiment vraiment ouf, et je pense que ils sont récompensés par le nombre de joueurs. S'ils arrivent à faire la même chose sur la prochaine extension, à mon avis, ils peuvent vraiment finir de flamber. Là, on est sur une montée, ça intéresse les gens. S'ils réussissent à faire une très bonne extension la prochaine, ça va être fou. On va pas se le cacher. On va regarder.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Et les autres jeux de cartes souffrent beaucoup. Moi,
Non, il y a Cross Maga qui monte quand même.
Cross Maga monte, oui, bien entendu. Mais tous les autres jeux de cartes, les Gwent, les Death Cross Bidule,
Gwent, il est monté. Là, il commence à y avoir enfin des premiers tournois qui sont dessus. Mais c'est vrai que Gwent, il a eu un gros pic à sa sortie. Et alors, le nombre de joueurs augmente toujours, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs en fait pour que ça baisse pour l'instant. Mais en termes de pourcentage, Gwen, c'est une catastrophe dernièrement en termes de pourcentage d'évolution.
Là, depuis le dernier mois, ils ont pas annoncé, hein. Là, le dernier mois, je peux te dire, ils n'ont pas annoncé les chiffres et à mon avis, ils vont pas les annoncer, hein. Parce que la plupart des. C'est qu'on va dire, hein, mais la plupart des joueurs, ils étaient partis où? Ils étaient partis d'où plutôt? Bah, de Hearthstone. Shadowverse aussi, qui était un bon jeu. Les gens sont partis de Hearthstone pour jouer à Shadowverse. Parce que Hearthstone, c'était devenu pourri. Puis Hearthstone arrive, ils sortent une très bonne extension, tout le monde revient sur Hearthstone, tout le monde kiffe. Et les autres jeux de cartes qui se disaient, allez, on va pouvoir prendre un petit peu grappiller là.
Raté.
C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur et c'est surtout le problème, c'est que la plupart des joueurs, même si certains joueurs continuent de jouer aux deux, bah ils mettent de l'argent dans le jeu principal qui est Hearthstone et dans les autres, ils restent free to play. Et le problème, c'est que les joueurs qui restent free to play, ça fait pas tourner un jeu. Un free to play, ça n'existe que si des gens sont là pour payer, hein.
Oui, et puis même Hearthstone a encore un énorme avantage sur tous les autres. C'est que Hearthstone a la scène compétitive la plus développée et la plus rémunératrice de toutes. Ce qui fait que, pour l'instant, ben quand tu as deux jeux qui te plaisent, mais qu'il y en a un des deux sur lequel tu as une chance de gagner ta vie, ben tu vas sur celui où tu as une chance de gagner ta vie, hein.
C'est
Donc,
vrai.
c'est-à-dire que Hearthstone, déjà, les joueurs qui préfèrent Hearthstone grâce à Un'Goro reviennent dessus. Mais également, tous les gens qui se posent la question, ben, ils commencent d'abord par essayer Hearthstone, avant d'essayer quoi que ce soit d'autre.
Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a ce nombre de joueurs. C'est peut-être le fait que, bah, comme la scène compétitive est ultra présente, t'as tout le temps des tournois à voir tous les week-ends, quasiment tous les soirs. Peux faire des tournois ou tu peux regarder des tournois. C'est pas la même chose sur Gwen, par exemple.
Non, Gwen, c'est un tournoi par semaine, peut-être en ce moment.
Voilà, ou même CrossMaga. CrossMaga qui, là, est en train de faire son deuxième tournoi un peu important. C'est déjà
Ouais,
pas
plus
mal
comme
pour un
ça.
jeu qui a 3 mois, mais. Enfin, plus 6 avec la bêta, mais. Mais voilà, CrossMaga qui est très très qui est ultra poussé par son éditeur. On va voir comment ça va marcher, mais voilà, The Elder Scrolls, le Gwent, etc. À mon avis, Blizzard vous a raconté qui c'était le patron. Voilà, je pense que c'était à peu près tout dans l'actualité Hearthstone.
Oui, je vais
Et
pas.
du coup, je vais te poser la question quand même, parce que j'avais promis que j'allais poser la question. Mais on en a beaucoup parlé dans les 70 millions, et du coup, c'est à peu près le truc. J'allais te poser la question, est-ce que c'est pas le tout meilleur Hearthstone qu'on a eu depuis le début du jeu?
Ben, pour moi, en fait, c'est très très dur de comparer mon le Hearthstone de maintenant avec le Hearthstone de quand j'ai commencé, parce que ben, t'as toujours la super méga excitation de quand t'as commencé. Mais je pense que si j'aime autant Hearthstone que quand j'ai commencé, c'est parce qu'il est mieux maintenant, vu que j'ai pas cette excitation. Est-ce que c'est le tout meilleur? Je sais pas. Mais est-ce que c'est celui qui donne le plus envie? Probablement.
C'est vrai que moi je pense que le jeu est à son apogée, hein, tout simplement. Je pense qu'on a rarement eu autant de fun, on a rarement eu autant de choses à faire. L'extension est réussie, que ce soit dans les dessins, dans les mécaniques, parce que toutes les nouvelles mécaniques sont jouées. Ils ont fait les
Oui.
nouvelles mécaniques et elles sont toutes jouées. Je veux dire, c'est assez rare comme ça, mais là, voilà, et les gars, ils ont fait bon. Alors, nouvelle mécanique, les quêtes, bah, les quêtes sont jouées. Nouvelle mécanique, l'adaptation, bah, l'adaptation est jouée. Nouvelle mécanique, tribe, etc. Le chaman, c'est pour toi, vu qu'on va te casser la gueule. Les élémentaires, bah, c'est joué. Donc, voilà, c'est cool, tu peux faire plein de trucs et puis t'as plein de decks pour passer légende. Parce que je pense que ça c'est l'objectif de la plupart des gens. Pas forcément pour être, tu vois, ultra compétitif, top 1 King of the World. Mais pour passer légende, tu peux jouer mais tellement de listes aujourd'hui.
Mais après, il y a les paliers aussi qui ont fait que, je crois qu'en termes de joueurs légendes, en tout cas sur le serveur européen, le record a été battu. On était presque à 25 000, ce qui est monstrueux.
Ah oui, c'est...
Alors, il y a les paliers, le fait qu'on puisse pas sortir du rang 5, le fait qu'on puisse pas sortir du rang 10, ça aide énormément, et c'est normal. Mais il y a toujours la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient, à un moment dans la saison, ils montaient, voilà, et puis à un moment, ils se disaient, je suis pas loin du légende, allez go. Et si ça marchait pas, ils arrêtaient sec. Ils se donnaient 2-3 jours, pendant 2-3 jours, ils jouaient le triple de ce qu'ils jouent d'habitude. Et après, ça passait pas. J'ai pas vu ce phénomène. Les gens, là, ils jouaient jusqu'au bout. Ils s'arrêtaient pas.
C'est ça, il y a plus de fun. Peut-être que le système de ladder, faudra le revoir un jour. Parce que, est-ce que le grand légende veut encore dire quelque chose?
Ben en tout cas, il veut beaucoup, beaucoup moins dire que d'autres jeux. Je pense par exemple à Overwatch, League of Legends, etc. Les systèmes de ladder, voilà, c'est quasiment indéfendable de dire qu'un légende à Hearthstone vaut un Grandmaster à Overwatch, qui est aussi le niveau le plus haut. C'est totalement indéfendable, je pense.
Après, moi c'est très difficile de juger, vu que moi-même, je suis pas légende. Je pense que la dernière fois que je suis passé légende, ça devait être en 2016. Pas se cacher, je pense que je suis passé. Ça fait peut-être un an que je suis pas passé légende. Donc, voilà. Mais sur les 20 000 légendes, il y a 10 000 personnes qui sont vraiment mauvaises.
Oui, c'est honnêtement cette saison, j'ai coaché 10 personnes aux légendes. Et dans les derniers push, quand tu es rang 1, en général, tu croises quasiment que des légendes. Tu croises que du 15 000, du 20 000. J'ai vu honnêtement des plays de joueurs légendes que je pensais pas que c'était ça en fait. C'est, j'ai vraiment été choqué par certains plays.
Ah oui,
vraiment, c'est vraiment, c'est, on en est dans un point, c'est choquant.
Avant, quand tu jouais contre un légende, t'avais une espèce de tension et tu savais que quand t'arrivais en légende et que tu jouais en légende, bon voilà, moi j'ai été légende au début du jeu, bah jusqu'à la DreamHack.
Jusqu'à fin 2015, t'étais déjà jusqu'à début de, ouais, jusqu'à la
ouais,
DreamHack 2016. Du coup, la DreamHack 2016.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'était l'an dernier. Voilà. Légende toutes les saisons.
J'étais légende toutes les saisons. Et le truc, en fait, c'est que quand tu jouais en légende, bah, tu savais que t'allais jouer contre un joueur correct. Tu savais que c'était cool. Et que du coup, tu pouvais tester tes decks, tu pouvais faire un truc ici. Alors que là, maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Faut monter beaucoup plus haut. Mais pour monter plus haut, ça demande du coup de jouer plus. Parce qu'avec leur nouveau système qui fait que plus tu tombes, plus tu mets de temps à passer légende, plus tu tombes loin dans le légende.
Oui, d'ailleurs, c'est complètement idiot. Hein, parce
voilà.
que...
Quel que soit ton taux de victoire, même si ton taux de victoire ça a été 100%, alors tu vas être mieux classé. Mais malgré tout, si tu pop à la fin du mois, tu vas popper,
voilà,
tu vas popper quelque chose comme 20 000. Et du
alors,
coup,
tu le rates. Alors, là où il y a quand même quelque chose, c'est que tu monteras plus vite à l'intérieur des rangs légendes. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive rang légende, on va dire on va prendre l'exemple le 26, le 27, on prend deux personnes, les deux vont arriver, on va dire, 15 000. La différence, c'est que s'il y en a un qui est arrivé 15 000 avec un taux de victoire de 80% et un autre qui est arrivé avec un taux de victoire de 60%, celui à 80%, quand il va gagner en légende, il va gagner 1500 ou 2000 places, alors que celui à 60% va gagner que 500 places.
Voilà, mais
donc
malgré
à
tout,
l'intérieur du légende, tu montes aussi beaucoup plus vite.
Voilà.
Mais il faut quand même se dire que c'est très décourageant. Mettons, on est le 26 du mois, tu te dis, bon allez, il me reste 4 jours, je suis en vacances, je tente un truc, tu pop légende 15 000.
Et le truc, c'est que de toute façon... Ça, voilà, quand tu pop 15 000, tu te dis, de toute façon, tu
voilà,
vas pas pouvoir tenter un
alors
truc.
Que tu mérites pas, voilà, et alors que tu mérites pas d'être 15 000. Si ça se trouve, imagine si Blizzard te l'avait dit, on dit, ouais, bon, t'es 15 000, ok, voilà, je sais pas comment tu t'appelles, hein, mais désolé, t'es 15 000. Bon, très bien, mais il faudrait au moins qu'ils préviennent. Mais en fait, si tu fais là, tu fais un 10-0, t'es top 500. Ah, ok, bon, alors ok, si je fais un 10-0, je suis top 500. D'accord. Mais le truc, en fait, c'est que la majorité des joueurs ne sont pas du tout au courant de ça. Ils arrivent, ils voient 15 000. Faut bon, bah, Hearthstone le mois prochain.
Bah oui, c'est ça. Il y a un problème de motivation. Le ladder commence à montrer ses limites pour un jeu qui a autant de joueurs. Peut-être qu'il va falloir changer. Peut-être qu'il va falloir faire des rangs plus durs. Peut-être qu'il va falloir faire je sais pas, quelque chose où un rang légende et un rang et qu'est-ce qu'il y a de plus que légende?
Non mais comme
Mythique, tu vois,
non mais
un rang
comme
mythique où en fait.
comme non mais même comme à Overwatch, le Grand Master et le Top 500 ont des logos différents, c'est pas les mêmes.
Voilà, mais
Mais
tu vois.
ils devraient peut-être faire la même chose. Ou alors, le rang légende est capé. Peut-être changer le cap. Faire en sorte que, en fait, le cap du rang légende, ce soit plus légende.
Mais ouais,
Que
par exemple, tu
peut-être ce
pourrais faire
soit
un truc.
que les 5000 premiers qui puissent pas sortir du légende.
Tu pourrais faire un
Quand tu
truc
passes au-delà
au-dessus
des
du légende.
5000, tu sors.
Ouais, tu pourrais faire un truc au-dessus du légende, tu vois. Genre le mythique, l'héroïque, le ultra top
Voilà.
gigantosique et giganto énorme.
Moi,
Bref.
j'ai vu des jeux qui faisaient quelque chose de très intéressant. C'est que quand quelqu'un arrivait rang 1, 5 étoiles, donc pareil que Hearthstone à peu près, enfin, c'était pas rang 1, 5 étoiles à l'époque, mais je prends l'exemple de Hearthstone, il jouait contre un légende, donc il jouait contre le légende connecté à ce moment-là et qui avait un des plus mauvais classements. Bah, s'il le battait, bah, comme il était rang 1, il passait légende. Mais là où c'était intéressant, c'est que l'autre n'était plus légende.
Mais
En
après, du
gros,
coup.
ils échangeaient leur place. Du coup, le nombre de légendes ne changeait jamais. Mais il y avait une vraie récompense. C'est-à-dire, quand tu étais rang 1 légende, tu jouais pour ta place. Mais le légende, il voyait que quand il jouait contre quelqu'un qui n'était pas légende, il jouait aussi pour sa place.
Et d'ailleurs, tu penserais quoi? Imagine, tu passes légende. Et une fois que t'es légende. Alors, les premiers. Les mecs qui sont arrivés le plus vite, ils passent directement dans le mythique. Voilà, le truc au-dessus. Mais quand t'es légende. En légende, tu fais des BO3. Et t'as un truc capé au-dessus. Ou c'est
Le
le truc, c'est
problème,
que quand tu rentres dedans, bah tu fais des BO5.
c'est que, en fait, du coup, tu fais quasiment des tournois. Ça, je serais totalement d'accord. Mais tu rentres avec quel deck? Tu mets ça comment en place, en fait? Tu fais ça avec le même deck? C'est-à-dire qu'en gros, si tu tombes sur un
Mais non,
mauvais match-up, bah, tu te fais
tu
bourrer
fais.
3 fois.
Bah le truc, c'est que tu fais Blizzard. Blizzard est totalement capable avec 70 millions de joueurs avec les pépettes. Ils sont totalement capables de faire un système dans lequel tu arrives avec trois decks dans l'escarcelle. Tu vois, t'as tes trois decks, tu valides
Oui, mais à ce
ça,
moment-là,
ça, ça, et c'est parti.
c'est ce qui existe déjà un petit peu au final, avec le fait que, ben en fait, les personnes qui sont au rang légende jouent très peu au rang légende. Ils jouent tous en tournoi, ils font tous des Open Cup, et ça s'appelle le circuit HCT.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi je le vois, cette saison je suis passé légende le 4 du mois et du bah, j'ai joué à N'Goro beaucoup, mais genre du 12 au 26, j'ai pas joué quasiment à Hearthstone. J'étais que avec mes élèves, je jouais avec eux, je jouais par procuration en quelque sorte, mais j'ai pas touché le ladder. Et c'est la même chose pour énormément de joueurs qui bah, ils touchent pas le ladder, quoi. Ils jouent, oui, ils jouent, mais ils s'en foutent, quoi. Ils sont là, ils rigolent, ils font des trucs. Ils s'en foutent en fait du rang légende, pour être honnête. Ils s'en branlent complètement. Hein. Ils jouent. Ils s'amusent.
Oui, voilà, maintenant le rang légende n'a plus d'intérêt que pour le top 200 et les gens qui veulent l'être pour la première fois.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a plus de prestige en fait, il n'y a plus
En fait,
de.
soit tu es dans le circuit HCT, et donc bah, dès que tu entres dans les plus hauts rangs du légende. Et ben tu fais des Open Cup et tu ne joues que début et fin de mois au final. Genre, il y a 20 jours dans le mois dans lequel tu ne joues pas en ladder, à moins que tu joues sur 3 serveurs à la fois, etc. etc. Sinon, tu es légende. Et une fois que tu es légende, tu joues à WoW, tu joues Overwatch, tu joues autre chose, mais tu ne joues plus à Hearthstone.
Non, oui, on est d'accord. Bon, mais du coup, là-dessus, on va finir. C'est très très bien. J'espère que ça vous aura plu. Donc, semaine prochaine, on va sûrement enregistrer en live. On va voir comment on va faire. On sera sûrement plusieurs. On fera un numéro un petit peu spécial en direct depuis Tours. On verra si on pourra avoir des invités, si on peut inviter des gens dans notre hôtel. Bien entendu, pour enregistrer un podcast. Hein? Pas de ça chez nous. Ou alors, si, un
Pardon,
petit peu de ça chez nous.
j'écoutais pas.
Mais bravo. Voilà, du coup, on vous
Merci.
fait des gros bisous. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à faire tout ça, à nous demander des sujets si des choses vous intéressent. Voilà, maintenant vous savez notre avis sur le premier mois d'Ungoro. On se retrouve dans une semaine ou deux, en fonction de à quel moment ce sera posté. Des bisous, les copains!
Ciao, ciao.